Les actualités du sel au micro de David Alonso.
Alors nous nous retrouvons pour notre émission mensuelle du sel. Aujourd'hui, nous avons avec nous Laura Boyadjan. Laura, est-ce que tu peux te présenter ?
Oui, bonjour. Alors moi je travaille au sel depuis maintenant 2 ans et plus spécifiquement au service des projets de développement où je suis chargée de projet.
Alors qu'est-ce qui se passe au service des projets de développement ?
C'est très simple. On soutient, on finance des projets de développement en Afrique subsaharienne francophone. Alors, ça va être des projets dans des domaines variés, comme par exemple l'agriculture, l'eau et l'assainissement, des cantines scolaires, du microcrédit et des projets de santé.
Alors, le sel s'est lancé récemment dans une campagne sur des projets de santé, donc qui font partie du périmètre du département, donc des projets de développement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ces campagnes de santé ? Pourquoi avoir choisi cette thématique ?
La santé, que ce soit dans les pays occidentaux ou dans les pays en développement, c'est un gros défi, ça reste un gros défi. On voit qu'il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, notamment grâce aux objectifs millénaires du développement. Mais par exemple, entre 1990 et 2015, on voit que le taux de mortalité infantile dans les pays en développement a diminué de 50%. Donc, ce qui est quand même pas négligeable. Au Tchad, par exemple, le sida a une prévalence de 1 à 2%, ce qui, il y a quelques années, était à 5%.
Donc, on considère donc qu'aujourd'hui, le grand effort qui a été regroupé autour des OMD a quand même en partie porté ses fruits.
Tout à fait. Mais il reste encore des efforts à déployer. Et le sujet de la santé est un sujet assez vaste et sur lequel on peut continuer à parler encore et où on peut toujours s'améliorer, en fait.
Alors, pourquoi est-ce que vous vous êtes intéressé à ces questions qu'on ne se pose pas, hein? C'est le nom que vous avez donné à cette campagne, les questions qu'on ne se pose pas. Pourquoi ce titre ?
Tout simplement parce qu'il y a certaines questions qui sont aujourd'hui pour nous une évidence en France et qui ne le sont plus forcément ou qui ne le sont pas forcément là-bas en Afrique subsaharienne, là où nos partenaires agissent. Alors, pour nous, ça, de se poser ces questions qu'on ne pose pas, ça nous permet de mettre en perspective comment nous, on vit en France et comment eux, ils vivent là-bas au niveau de la santé et les différences qu'on peut avoir tous ensemble.
Alors, pour en avoir vu déjà quelques-uns des sujets que vous avez abordés, est-ce qu'on peut pas plutôt dire que ce sont des questions qu'on se pose moins, en fait, puisque certaines des questions qui sont abordées là sont encore aujourd'hui présentes, alors peut-être pas avec le même taux que dans certains pays en voie de développement, mais quand même qui sont présents chez nous.
Oui, tout à fait. D'ailleurs, on ne dit pas que c'est pas des choses qui n'arrivent pas en France, c'est des choses qui n'arrivent plus ou qui arrivent moins. Et on évite de dire « attention, là-bas, c'est catastrophique et ici, c'est parfait ».
Donc, on n'est pas dans une opposition franche et massive entre une sorte de perfection occidentale et puis, en fin de compte, une situation désespérée de l'autre côté. On essaie de trouver, en fin de compte, quelque chose entre les deux. Mais de quoi parle-t-on ? Parce que là, on est en train de parler de ces questions, mais c'est quoi ces questions ? Alors, est-ce que tu peux nous présenter quelques-unes des questions que vous avez décidé d'aborder dans cette campagne ?
Alors concrètement, une question qu'on ne se pose pas ou qu'on ne se pose plus, ça serait « Est-ce que je vais trouver un médecin en allant à l'hôpital ?» Cette question, on ne se la pose pas. On sait qu'à l'hôpital, il y aura toujours au moins un médecin qui pourra nous prendre en charge. L'OMS, donc l'Organisation Mondiale de la Santé, recommande d'avoir un médecin pour 10 000 habitants. Par contre, ce que nous, on constate, c'est que dans les pays en développement, et notamment au Tchad, actuellement, il y a un médecin pour 80 000 habitants.
Donc là, on est dans des situations effectivement totalement différentes. D'autres questions que vous vous posez ?
Une autre question serait, feriez-vous 15 km à pied pour vous faire soigner dans un hôpital vétuste ?
Et est-ce qu'on le ferait ?
Non, on ne le ferait pas, parce que déjà, à pied, la question ne se pose pas. On a toujours des ambulances, quelqu'un qui peut nous emmener en voiture, les pompiers... Alors que dans les pays en développement, c'est vrai que soit les routes sont cabossées, il n'y a pas forcément d'ambulance, les personnes vont emmener les patients en moto ou alors des fois ça sera à pied. Et donc du coup, faire ces 15 km pour arriver dans un hôpital où il n'y a presque rien parfois, on ne le fait pas parce qu'on est trop mal en point et ça ne vaut pas la peine.
Quand on parle ici donc de routes cabossées, donc on ne parle pas de zone urbaine.
Non, on parle de zone rurale, bien entendu.
Encore une autre question, là, juste pour finir, une autre question qu'on ne se poserait pas trop en France.
Alors celle-là, on peut se la poser quand même, des fois on se la pose, mais on se la pose un peu moins, c'est est-ce que dans mon hôpital, les règles d'hygiène sont respectées ? Et c'est vrai que on ne se pose plus trop la question de savoir si en entrant dans une chambre à la maternité, par exemple, est-ce qu'il y aura un gel hydroalcoolique ? Ça, on ne se pose plus la question, on sait qu'il y aura. Dans certains hôpitaux ou centres de santé en Afrique, c'est pas le cas. Il faut sensibiliser les personnes à détruire les déchets biomédicaux, à bien se laver les mains ou à porter des gants ou même tout simplement porter un masque. Et ça, ce genre de choses, c'est des règles d'hygiène de base, mais qui ne sont pas forcément toujours présentes dans les centres de santé.
Quelles sont les conséquences concrètes en fait de ces absences de règles d'hygiène ?
Bah, tout simplement, un malade peut contracter une autre maladie à l'hôpital ou au centre de santé ou à contracter une infection. Et alors, ce qui est un peu plus embêtant, c'est quand le personnel soignant tombe lui-même malade de ce genre de choses.
Ah oui, effectivement. Concrètement, donc, face à ces quelques questions, et je pense que vous en avez beaucoup plus, concrètement, face à ces questions, que fait le SEL ?
Alors, le SEL va financer justement des projets au niveau de la santé. Par exemple, le SEL financera des formations pour le personnel soignant, en tant qu'infirmier, aide-soignant, aide-sage-femme. Après, le SEL finance aussi des équipements pour les centres de santé, pour que justement les personnes, quand ils décident de se déplacer, au moins ils puissent être pris en charge avec un lit, des matelas, qu'il puisse y avoir un fauteuil dentaire, par exemple, ou du matériel de petite chirurgie, ou un laboratoire. Ou alors, le SEL soutiendra les actions faites par les partenaires de prévention et de sensibilisation.
Qu'est-ce que tu mets derrière prévention et sensibilisation précisément ?
Alors, les partenaires vont dans les villages pour enseigner les méthodes de base pour éviter de tomber malade. Ou en tout cas, prévenir par exemple d'avoir le sida en les sensibilisant sur la question du sida. C'est lever les tabous au niveau de la santé pour que, au niveau de la communauté, ils sachent que c'est important de faire attention à sa santé, que quand ils sont malades, ils vont au centre de santé et qu'ils seront pris en charge. Et comme ça, bah, tout le monde va mieux, tout le monde peut travailler, les enfants peuvent aller à l'école.
Est-ce que vous abordez aussi les questions liées à l'accès à l'eau, à l'assainissement dans le cadre de la santé ?
Oui, tout à fait, parce que justement, c'est important que les personnes puissent être... qui sont malades puissent venir et avoir de l'eau potable ou de l'eau propre pour boire à l'hôpital ou bien puissent avoir des toilettes ou des douches, ces rudiments qui sont quand même essentiels.
Et qui nous semblent tous évidents en fait. Qui sont ces partenaires du SEL qui mettent aujourd'hui en œuvre ces projets ?
Alors les partenaires du SEL sont souvent des organisations, que ce soit des associations ou des églises, donc on met l'accent sur le côté chrétien de nos partenaires, mais aussi sur le côté local de ces organisations. C'est important pour nous de travailler avec des personnes qui sont sur le terrain, qui connaissent le terrain, qui ont toujours vécu là et qui sont les mieux placées pour répondre aux besoins. Alors après, en général, ces personnes vont nous soumettre un projet qu'on va recevoir, qu'on va examiner avec une commission des projets qui est mise en place au sein des projets de développement.
Donc en fait, aujourd'hui, ce que tu nous dis, c'est que si j'ai 10 projets qui se présentent à la porte du SEL, ça ne veut pas dire qu'il y a 10 projets qui vont être pris en charge par le SEL.
Exactement. La commission des projets va justement faire ressortir les projets qui valent la peine d'être soutenus et qui tiennent la route au niveau financier et durabilité et autonomie.
Tu peux me donner quelques exemples aujourd'hui de projets justement en lien avec la santé ?
Oui, alors justement, on soutient l'hôpital évangélique de Koyom, qui est mis en place par des églises et qui est donc un hôpital évangélique, donc chrétien. Là, on soutient des formations au personnel. Ou alors, on soutient le CEPROMOR en République démocratique du Congo, donc c'est le centre de promotion du monde rural. Et là, on va soutenir des points d'accès à l'eau, on va soutenir de l'équipement de centres de santé ou de la réhabilitation nutritionnelle.
Quand je t'écoute, le SEL ne finance pas la construction d'hôpitaux ou la construction de centres de santé, finalement ?
Non, pas du tout. le sel équipe des centres de santé qui sont déjà mis en place.
Donc on est plutôt dans une démarche de renforcement de capacité que de création de celle-ci ?
Oui, tout à fait.
Comment est-ce que nous pouvons, ici, en Europe et en France en particulier, soutenir ces partenaires du sel dans leurs efforts tout à fait méritoires sur le terrain ?
Je pense que déjà, en tant que chrétien, notre première action et la plus pertinente, c'est de prier. On peut déjà prier pour les partenaires qui s'engagent sur le terrain et on peut prier aussi pour les bénéficiaires qui vont recevoir et peut-être aussi entendre parler de Dieu au travers de l'action de nos partenaires.
Comment est-ce qu'on peut avoir l'information qui nous permet de prier ?
En fait, tout simplement en se tenant informé, parce que nous, avec le sel, on vous donne des moyens d'avoir cette information au travers de notre page Facebook que vous pouvez liker, donc le service d'entraide et de liaison si vous tapez sur la barre de recherche. Après, on a aussi un site internet, donc www.selfrance.org, et un blog sur lequel vous pouvez aussi trouver plein de renseignements et d'articles de réflexion.
Et si on veut aller plus loin et donc donner pour ces différents partenaires, comment fait-on ?
À nouveau, vous pouvez aller sur le site du SEL pour trouver un formulaire sur les projets santé et vous pouvez soutenir par ce biais-là. Ou bien vous pouvez nous écrire au SEL 157 rue des Blains, 92 220 Bagneux.
Je répète, on écrire au SEL 157 rue des Blains, 92 220 Bagneux. Merci beaucoup Laura.
Merci David.
On se retrouve le mois prochain pour une émission d'actualité sur le SEL.